Nous allons envisager aujourd'hui la difficulté qu'il pourrait y avoir pour nous, pour vous, la difficulté à envisager que quelqu'un d'autre puisse recevoir de la même manière que nous la bénédiction de Dieu ou son action favorable. Est-ce que ça peut représenter une difficulté ou une joie? Est-ce que cette idée que quelqu'un d'autre reçoit peut-être même plus que ce que nous aurions nous-mêmes reçu? On va essayer de garder un petit peu cet objectif, c'est vers là que nous allons tendre. C'est confus, c'est sans doute pas très bien clair encore à l'esprit, j'espère pour moi plus que pour vous, mais en tout cas, nous partons dans cette direction et c'est avec cet objectif que nous allons aborder la parole de Dieu et trois textes, l'un dans la lettre des rois, dans l'Ancien Testament, la seconde dans le livre du prophète Jonas et le troisième texte dans celui de Matthieu, Matthieu au chapitre 12. Donc le premier texte qui va être devant nous, le voilà. Alors j'ai pas de... rétro-vidéo, est-ce que c'est l'écran qui est peut-être pas allumé? Ça pourrait être un petit truc sympa. Ouais, ça marche. Voilà, donc le texte qui est devant nous, c'est celui d'un tout petit récit qui met en scène le roi Jéroboam et notre prophète Jonas. Nous lisons la parole de Dieu. Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amittaï, de Gath-Hépher. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il n'y ait personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Alors, dans ce premier récit, il y a un petit peu... On est en l'an 700-750 avant Jésus-Christ. C'est un peu troublant à la première lecture, parce qu'on lit la première partie où il est dit que Jéroboam, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc, normalement, quand on fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, on s'attend à une catastrophe après. Or là, c'est l'inverse qui se produit. C'est qu'en fait, Jéroboam a une action de restauration qui va prendre place et en fait, le royaume d'Israël va retrouver toutes ses limites, toute sa puissance, etc. Et ça, ça va être le résultat d'une décision de Dieu qu'on voit au verset 27. L'Éternel avait résolu de ne pas effacer le nom d'Israël. Et donc, il utilise Jonas comme prophète pour annoncer ce rétablissement et cette restauration. Voilà donc pour le premier texte. Le second texte, c'est donc le prophète Jonas. Dans vos Bibles, il est dur à trouver parce qu'il est très court. Il tient sur deux pages, enfin sur ma Bible, et il est perdu dans les autres petits prophètes, comme on dit. Mais Jonas est un grand prophète, en fait. On va essayer de trouver en quoi il est très éclairant pour nos vies spirituelles. La première lecture sera une lecture un peu à saute-mouton dans les trois premiers chapitres. On va voir le verset 1, puis ensuite on passera au verset 12, etc. Donc si vous suivez sur vos Bibles papier, vous allez peut-être, ou sur vos smartphones, vous allez peut-être vous dire, bon, il est où là? Alors on va essayer de ne pas se perdre, et on lira ensuite le chapitre 4 en entier. Avant cela, une petite situation géographique qui n'est pas très importante, mais... la voilà. Donc, le point de départ de Jonas, il est ici, c'est le point rouge. Le premier voyage de Jonas, ou plutôt sa tentative de voyage, Elle est pour Tarsis. On ne sait pas trop où est Tarsis, en fait. On se plaît à le voir du côté de l'Espagne, en Andalousie, et c'est qu'une hypothèse. Une autre hypothèse peut être en Cilicie, hein, Turquie du Sud, quelque part la ville de Tars, c'est un peu plus logique. Mais en fait, c'est moins parlant parce que c'est quand même dans la direction de Ninive. Et puis, il y a d'autres hypothèses où on le place beaucoup plus au sud. Donc, ça donne une petite idée de la situation. Donc, Jonas va commencer par un premier voyage ici. Il va être interrompu. Et puis, le second voyage, eh bien, ce sera le voyage de Jonas jusqu'à Ninive, qui se trouve ici. C'est une des banlieues de Mossoul aujourd'hui. Voilà, comme ça, on est... Voilà, on peut lire le prophète. La parole du Seigneur parvint à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Il descendit à Jaffa, trouva un bateau qui allait à Tarsis, il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et échapper ainsi au Seigneur. Alors, oui. Mais le Seigneur lança un grand vent sur la mer, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le bateau menaçait de se briser. Les marins eurent peur. Verset 12, Jonas leur dit, « Prenez-moi, lancez-moi à la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » La suite arrive. Ils prirent Jonas et le lancèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Chapitre 2. Le Seigneur fit intervenir un grand poisson qui engloutit Jonas, et Jonas resta dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva et alla à Ninive. Alors, là nous abordons le chapitre 4 qui va commencer à répondre, à aborder la question qui nous préoccupe au début. Est-ce que ça présente une difficulté quand Dieu répand sa bonté sur quelqu'un d'autre que nous, parce qu'en fait, on pense que il aurait peut-être dû s'économiser sur ce coup-là. Voilà, ça va essayer de placer le cadre. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Il implora le Seigneur en disant, « N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu clément et compatissant et patient et grand par ta fidélité et qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie. Je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur répondit, « Fais-tu bien de te fâcher ?» Jonas sortit de la ville, il s'assit à l'est de la ville, là il fit une cabane, il s'assit dessous à l'ombre afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur Dieu fit intervenir un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver qui s'attaqua au ricin et le ricin se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant. Le soleil frappa la tête de Jonas, il tomba en défaillance. Il demanda à mourir en disant « Mieux vaut pour moi mourir que vivre ». Dieu dit à Jonas « Fais-tu bien de te fâcher à cause du ricin ? » Jonas répond, « Je fais bien de me fâcher au point de demander la mort. » Le Seigneur dit, toi, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit, qui a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. Voilà, nous allons lire tout à l'heure le dernier texte qui est tiré de Matthieu. Mais nous allons nous arrêter un peu maintenant sur cette colère de Jonas. Pourquoi Jonas se met en colère et pourquoi il est tellement fâché qu'il prend le bateau et qu'il va s'éloigner de l'itinéraire, il va même faire tourner le dos à Dieu. Est-ce que c'est apparu clairement dans votre esprit en lisant le texte ? Ah, il est fâché, ça c'est clair. Il est même très fâché. Mais quelle est la raison profonde ? Est-ce que Jonas est un homme qui manque de foi et qu'il pense que Dieu va le piéger dans une mission qui le dépasse ? Est-ce que Jonas pense qu'un de ses collègues ferait mieux l'affaire que lui et qu'il aimerait un peu plus de tranquillité ? Ou est-ce que Jonas a peur ? Souvent, la colère, ça peut être de la peur. Il a peur des Ninivites, qui ne reconnaissent quand même pas la droite de la gauche, donc c'est une mission risquée. Non. Jonas, le verset clé, on va le relire, on va le retrouver normalement facilement. Au verset 2, Jonas implore le Seigneur. C'est dans un dialogue avec son Dieu. Il dit, n'est-ce pas, parce que cette réaction-là qu'on est en train de lire, elle est suite à la repentance, on l'a lu la repentance des Ninivites. Excusez-moi là, c'est confus pour vous. Hein. C'est qu'il y a une diapositive qui a sauté, elle n'est pas là. Alors, je vais vous la lire. Oh, pardon. Je me disais bien que c'était fouillis pour moi, donc ça doit l'être encore plus pour vous. Voilà. Alors, donc le Seigneur fait recracher le poisson. Jonas se retrouve sur la plage. Il entend de nouveau l'appel de Dieu. Il se lève et il va à Ninive. Allons, on va lire la partie qui manque. Pardon. Le Seigneur parla au poisson qui vomit Jonas sur la terre ferme. La parole du Seigneur parvint à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva et alla à Ninive. Il proclamait « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive mirent leur foi en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne, ils se revêtirent d'un sac. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de leur faire et il ne le fit pas. C'est sûr que s'il manque ça, on ne comprend pas la réaction de Jonas. Voilà que Jonas finalement a accompli sa mission. Il prêche, on le sent convaincu dans sa prédication. Hein. Encore 40 jours et Ninive est détruite. Il est au minimum de ce qu'il doit faire. Et apparemment, il n'a pas eu besoin de faire ça longtemps. Les gens de Ninive croient et ils se repentent. Ils changent d'attitude et ils se tournent vers Dieu. Et ça provoque chez Jonas une grande colère. Cela fut très mal pris. C'est notre diapositive là que l'on avait. Ce fut très mal pris par Jonas qui se fâche. Il implore l'Éternel en disant « N'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément, compatissant, patient et grand par ta fidélité, qui renonce au mal. » Donc Jonas est fâché parce qu'il est croyant, parce qu'il a la foi. Ça, c'est un point très important. Jonas est convaincu dans le Dieu auquel il croit. Il sait qui est ce Dieu. Il connaît sa puissance. Il le dit. Je savais que tu es un Dieu, un tel. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point qui est très troublant et qui nous amène à notre question. C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Alors, littérairement, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Ben, c'est ce que je voulais éviter. Je ne voulais pas, en prêchant la repentance aux Ninivites, que les Ninivites se repentent. Parce que toi, je sais que tu es capable de faire que les Ninivites changent. Et moi, il n'en est pas question. Je ne suis pas d'accord avec ton plan. Je suis fâché. Je préfère mourir que de voir les Ninivites devenir mes frères. Se tourner vers Dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire ? C'est quand même compliqué. Et en plus, ça a l'air d'être une colère fondamentale, une colère énorme, qui le possède au point où il dit « Non, j'arrête ». En le lisant, c'est presque comique. Sauf qu'en creusant un peu, on va peut-être trouver que c'est pas si drôle que ça. Alors, revenons à la première partie que nous avons lue. Jonas est prophète au nord d'Israël. Pour faire rapidement, vous vous souvenez que Dieu a établi le roi David, ensuite le roi Salomon, sur un grand royaume unifié. Le fils de Salomon va perdre la main, il va rester avec un tout petit royaume qu'on va appeler le royaume de Juda, autour de Jérusalem, avec deux tribus, Benjamin et Juda. Et puis, je crois que c'est un capitaine de l'armée, Jéroboam 1, qui lui va partir avec 10 tribus, et il va fonder le royaume d'Israël avec Samarie comme capitale, c'est donc au nord de l'Israël actuel. Et c'est dans cette situation que Jonas va faire son travail. Il va être prophète et Dieu lui dit un jour, bah écoute, prophétise, va dire à Jéroboam, eh bien Dieu a décidé d'être bon et il va rétablir les frontières d'Israël pleine et entière. Il va chasser tous ces bandits, tous ces envahisseurs qui rendent la vie d'Israël très très difficile. Donc Jonas il est témoin de la grande bonté de Dieu pour son peuple. Et apparemment, ça ne pose pas de problème. Donc, il sait que Dieu est agissant. Et il sait que lui, il est son porte-parole ou son prophète. Et voilà qu'une deuxième mission, alors je place la mission de Jonas à Ninive après la restauration du pays d'Israël. C'est peut-être avant ou pendant ou en même temps. Quand Jonas a la même mission, mais que cette mission concerne quelqu'un d'autre que ce pays d'Israël, ça ne passe plus. Reprenons notre question. Est-ce qu'il y a des situations où nous avons du mal à imaginer que Dieu accorde sa bonté à quelqu'un d'autre au même titre que nous ? Qu'est-ce qui a fait que Jonas, parce que Dieu lui pose la question, Jonas dit « Oui, je fais bien. Je fais bien de me fâcher. » Qu'est-ce qui le rend si sûr de lui qu'il a raison de s'opposer à ce projet fou que Ninive soit convertie ? Eh bien, il faut savoir, enfin, il me semble qu'un des éléments de réponse, et c'est peut-être une raison qui va nous faire aimer un peu plus Jonas, c'est que Ninive était à l'époque un royaume en pleine expansion, un royaume très, très violent, qui a inventé, semble-t-il, la déportation, le déplacement des populations. Quand les Ninivites allaient conquérir une région, et ils ont conquis un empire considérable qui allait jusqu'aux portes de l'Égypte, qui montait jusqu'aux Mèdes et aux Perses, qui allait jusqu'en Turquie, etc., c'était énorme, un rouleau compresseur. Il prenait des populations d'un coin, il la mettait dans un autre coin de l'Empire, très loin, 1000 kilomètres, et il prenait les populations qu'il y avait là, il les déplaçait dans l'autre sens. Et ça marchait très bien, ça démembrait les nationalismes de droite et de gauche, et cet empire était très solide, mais très, très violent. Et donc, Dieu demande à Jonas non seulement d'aller prêcher chez quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, qui confond la droite de la gauche, etc., mais en fait, Dieu lui demande d'aller chez l'ennemi potentiel du pays d'Israël, qui ne va pas être que potentiel d'ailleurs, parce que Ninive va effectivement envahir, quelques 50 ans après peut-être, le pays d'Israël et complètement le balayer. Donc Jonas voit les choses se passer sous ses yeux, il est en train de comprendre que il est prophète, il sait, il y a d'autres collègues qui disent « Israël va être déporté ». Et le mot « déportation » à l'époque, ça veut dire quelque chose, ça veut dire « ah, bah, c'est la stratégie assyrienne, c'est la stratégie des Ninivites ». On va être déporté, puis il y aura quelqu'un d'autre qui viendra, ce qui va être le cas, qui va donner naissance au peuple des Samaritains, entre autres. Voilà, donc Jonas, quand même, il a des raisons de se dire, mais, ah, je vais changer l'agenda de Dieu. Je vais partir à Tarsis, parce que sur ce coup-là, je ne suis pas d'accord. Alors, donc, nous nous retrouvons avec cette question, et là je vous dois une petite histoire de comment cette histoire de Jonas m'est venue à l'esprit. J'écoutais il y a quelques semaines, nonchalamment assis derrière, à moitié caché par les plantes, j'écoutais la prédication de Pierre, et j'ai sursauté, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Il était en train de commenter le passage où Dieu pardonne à Akab parce que Akab s'est repenti. Et j'entends Pierre dire parce que Dieu pardonne à ceux qui se repentent. Mais là, j'ai vraiment sursauté sans réfléchir. J'ai dit, prêche n'importe quoi, c'est hérétique ce truc. Et puis, je regarde le passage biblique et je vois effectivement que c'est écrit comme ça. Alors je me dis, ah mais c'est pas Pierre qui n'a pas une bonne théologie. C'est le texte biblique qui me dit que Akab, il faut se souvenir, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, Akab c'est celui qui a tué Naboth, un pauvre paysan vigneron qui voulait vivre sa vie tranquille avec sa vigne. Alors moi j'ai trouvé ça là, j'ai réagi au premier degré. J'ai dit, mais ce texte quand même, c'est dur, je ne savais pas qu'il était là en fait ce texte. Je ne pensais pas qu'Akab s'était repenti. Et puis après, en réfléchissant, en retournant chez moi, j'ai dit, mais si tu as réagi comme ça, c'est que tu as réagi contre Dieu. Et qu'est-ce qui t'a fait réagir ? Eh bien, c'est l'esprit de justice, n'est-ce pas ? On n'a pas envie que quelqu'un qui a mal agi reçoive les dons de Dieu. Ce qui commence à devenir de plus en plus gênant parce que ça va rejoindre notre quotidien. Les plus vieux d'entre nous, je commence à en faire partie, les plus jeunes des plus vieux, on accumule des difficultés relationnelles, n'est-ce pas ? On a eu des accidents de vie, parfois. Si vous n'en avez pas eu, n'en demandez pas, c'est formidable, mais ça arrive. Soit qu'on en soit coupable, soit que d'autres personnes se soient rendues coupables envers nous, ou les deux. Bref, on a des passifs, et maintenant se repose la même question. Ah, est-ce que Dieu nous enverrait pas prêcher à Ninive, là ? Ou à défaut de prêcher, ne serait-ce que prier, et se dire, tiens, cette situation-là, cette personne-là, je n'imagine pas facilement qu'elle puisse être bénie par Dieu. Ça me pose problème. Vous en avez là sous le coude à vous mettre peut-être un peu quand même. J'ai assisté un jour à une conférence d'une personne qui expliquait son travail dans un pays où les chrétiens n'étaient pas bienvenus. C'est le moins qu'on puisse dire. On appelle ça les pays fermés à l'évangile, où les chrétiens sont torturés, où vous voulez témoigner de Jésus-Christ, mais vous devez être vraiment très discret. Et cette personne expliquait avec beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité, tout son quotidien. Et après, il est venu le temps des questions-réponses, et un monsieur dans l'assistance s'est levé et dit « Mais pourquoi vous faites ça ? Ces gens sont des barbares, vous n'avez qu'à les laisser là où ils sont. » Et sa question était surprenante, mais elle était compréhensible. Il dit « Mais pourquoi on se fatigue ?» Et la conférencière, c'était une dame, a tranquillement expliqué « Ben voilà, nous partons au nom de Dieu qui nous a envoyés, n'est-ce pas, vers toutes les nations. Et c'est avec cet esprit dont Jonas était convaincu, avec cette conviction de la puissance de Dieu, que oui, Dieu est un Dieu patient, miséricordieux, plein de bonté. Donc je ne crois plus que Pierre dit des sottises théologiques. Par contre, je suis embarrassé avec mon truc là. Je me dis, Jonas, qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors on va essayer de voir l'étape d'après avec Jésus-Christ qui nous dit qu'il est plus que Jonas. Nous lisons la parole de Dieu, Matthieu 12. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ça, c'est un texte extraordinaire à la lumière de ce récit de Jonas. Il y a quelques difficultés et nous ne pouvons pas tout traiter, donc pardonnez-moi de ne pas refaire parce qu'on a déjà bien avancé. On va plutôt s'acheminer vers la conclusion. Mais il peut paraître surprenant que ces autorités religieuses demandent un miracle. D'autres, parce que c'est arrivé relativement fréquemment dans les échanges entre Jésus et les autorités religieuses, que les autorités religieuses viennent lui demander ses lettres de créance, sa légitimité. Donc le mot miracle pourrait être traduit ici par un signe venant du ciel. Dans d'autres textes, il est dit un signe venant du ciel. C'est un peu différent sans doute de ce qu'on peut imaginer par les miracles que Jésus faisait à tour de bras tous les jours. On se demande pourquoi ces religieux demandent un miracle. Il dit, t'as qu'à ouvrir les yeux, t'en trouveras. Non, c'est un peu plus profond que ça. Ils veulent que ce Jésus donne des éléments qui vont permettre de dire, ah oui, c'est le bon. C'est un problème d'apologétique, de savoir, mais est-ce qu'on va placer notre confiance dans ce Jésus ? Et là, Jésus répond donc, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. Jésus, 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et il y a ici plus que Jonas. Ça veut dire qu'il y a Jonas, mais il y a Jonas plus quelque chose. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est que Jonas est un signe, un poteau indicateur. Il va montrer dans sa faiblesse, son humanité, dans son parcours, il va montrer, bien malgré lui, ce qui va se passer quand le Messie sera là. Autrement dit, Jonas, c'est un signe, c'est un indicateur, c'est quelque chose qui montre, et Jésus, il est la chose signifiée. C'est pour ça que Jésus n'accorde pas de signe à ces gens qui le lui demandent, parce qu'il dit « Je suis le signe, regardez-moi. Et si vous ne me regardez pas maintenant, regardez dans quelque temps, vous verrez, je serai 3 jours et 3 nuits
dans le ventre, dans le sein de la terre, et je ressusciterai. Il est affirmé ici que le signe de la résurrection sera celui de Jonas manifesté, le vrai Jonas, le Jonas plus. Voilà qui va nous aider à progresser un petit peu sur cette question. Se peut-il que nous ayons quelque part des difficultés à accepter que quelqu'un d'autre reçoive la même grâce et la même bénédiction que ceux que Dieu accorde aux chrétiens? Oui. Oui, parce que nous sommes ressuscités avec Jésus-Christ. Ce que Jonas ne semble pas avoir pu faire, les chrétiens vont entrer dans une nouvelle vie, dans une nouvelle logique. La logique qui nous dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent. » On peut commencer. Et je suis sûr qu'on a de quoi, ici ou là, pointer du doigt. Peut-être qu'il y a même des choses que vous hésitez à prier. Parce que vous dites, si je prie, Dieu il va exaucer. Seigneur, je te prie pour un tel qui m'a fait du mal et que j'aimerais bien qu'il continue de rester dans la panade dans laquelle il est. Ça, c'est la version Jonas. Est-ce qu'on arrive à progresser dans cette direction? Ça peut ne pas être très facile. Mais ce n'est pas besoin d'aller à Ninive, c'est juste rester chez soi et prier, « Seigneur, bénis cette personne que je hais ou que je n'aime pas ou avec qui j'ai des difficultés. » Il y a la version Église. Et peut-être c'est les pasteurs qui sont un peu plus concernés, mais non, mais ce n'est pas tout à fait vrai. « Seigneur, bénis cette Église. » Elle est dans la même ville que moi. Elle témoigne de moi. Et pourtant, je ne suis pas prêt à souhaiter qu'elle ait autant, ou sinon plus, de bénédictions que nous. Aïe, aïe, aïe. Et vous avez remarqué comment Dieu s'y prend? Ah, c'est étonnant. Hein. Là, je pense qu'il y a, pour les sciences sociales, quelque chose à réfléchir. Avez-vous vu comment Dieu s'y prend avec douceur? Jonas, il est furibond. Il veut mourir, vous vous rendez compte, mourir. Il en a marre de cette vie qui n'a pas de sens. Et Dieu s'approche doucement et il lui dit, fais-tu bien? C'est une question ouverte. Et Jonas lui répond, hein. Il dit oui. Et Dieu n'argumente pas, mais il lui demande au moins deux fois, fais-tu bien? Il lui a peut-être même demandé plusieurs fois, ce n'est pas écrit dans le livre, mais même quand il l'a envoyé sur le bateau et que la mer se démonte et que le bateau va couler, Jonas sait très bien, il le dit d'ailleurs, mais c'est à cause de moi. Donc Dieu commence déjà à lui parler. Et quand il passe dans le ventre du poisson et qu'il revient, là aussi, il doit se dire, mince, Dieu revient, vas-y. Alors bon, c'est un peu contraint et forcé, hein. Ah, il le fait. Il est encore fâché. La ville est toujours debout. Il va dans cette cabane à l'est. Il est fabuleux, ce Jonas. Il est extraordinairement têtu. Moi, je l'admire. Vous vous rendez compte? Direct, face à face avec Dieu. Il est dans une obstination et Dieu dit, hey, tu fais bien de te fâcher à propos de cette plante-là qui t'a donné de l'ombre. Ouais, franchement, cette plante, hein, ça ne vaut pas grand-chose. Et tu la regrettes. Tu voudrais qu'elle soit encore là pour te consoler. En plus, Dieu a fait pousser le ricin pour consoler Jonas. Voilà, toutes ces indications montrent avec quelle douceur Dieu va vous amener dans ce chemin où petit à petit, on va dire, ah ouais, il faut que je reconsidère mon éthique. Il faut que je reconsidère ma position. Il faut que je reconsidère. Dieu me dit, fais-tu bien. Fais-tu bien. Vous avez remarqué que le livre de Jonas reste ouvert, complètement ouvert. On ne sait pas ce qui se passe avec Jonas. Sinon que les marins sont sauvés grâce à Jonas, Jonas est sauvé grâce à Dieu, et que les Ninivites sont sauvés. C'est un livre formidable de réveil. Gardez cela à l'esprit. Seigneur, je ne vais pas prier ça pour qu'il y ait un réveil, pour qu'il y ait des repentances, pour qu'il y ait un retour à Dieu, je ne sais pas. Je vais juste prier pour moi, pour que ma colère s'apaise, pour que je sois aimant comme toi, tu es aimant. Ah oui, j'ai un problème avec ça. Ah, bah c'est bien. Seigneur, bénis, Seigneur, répands ta grâce, Seigneur, enrichis, redonne toutes sortes de belles choses à un tel ou un tel, ou tel groupe, telle église, ou telle nation. Vous avez remarqué comment, tout doucement, dans nos géopolitiques, on parle de clivage, de tension, un tel et un contre un tel. On se positionne comment? Vous êtes pour ou contre ceci ou cela? Je ne vais pas citer des exemples parce que ça pourrait être difficile à gérer par la suite, mais vous en trouverez. On nous demande de nous positionner. Il dit, mais ceux-là, ce sont les laids, ce sont les méchants, ce sont les mauvais, regardez. Ah, moi, je vais faire autre chose. Seigneur, voilà des Ninivites, ça tombe bien. Moi, j'en suis un, anciennement, toujours un peu. Eh bien, Seigneur, bénis ces personnes. Amène-les à te connaître, à connaître la puissance de la nouvelle vie qui est en Jésus-Christ. Allez, on y va. Voilà. Je crois que j'ai plus grand-chose à ajouter, sinon que nous allons avoir un petit moment musical, une strophe en version instrumentale pour réfléchir à cet enjeu de l'obéissance à Dieu avec cette vie nouvelle. Et puis, pendant le chant qui suivra, les boîtes circuleront dans les rangs et vous pourrez donner ce que vous avez décidé en votre cœur de donner à Dieu.